1 Roi chapitre 17. Versets 10 à 16. 1 Roi chapitre 17, versets 10 à 16. Au nom de Jésus. Élie se mit donc en route pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. » Elle partit en chercher, mais il la rappela et lui dit, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Par le Seigneur vivant ton Dieu, je te jure que je n'ai pas de pain, répondit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois. Je vais aller préparer ce qu'il nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. N'aie pas peur, lui dit-il, Élie. Va, fais comme tu l'as dit. Seulement, tu me prépareras d'abord une petite miche de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras une pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans le bol. L'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait dit, et ils eurent à manger pendant longtemps. Elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce qu'Élie avait annoncé de la part du Seigneur. Amen. Je tiens à vous rassurer, ne vous inquiétez pas, même si vous venez d'entendre le texte de Marc, où on parle d'offrande, je ne vais pas faire une prédication pour vous inciter à donner plus, ou donner ce qui vous reste, comme ce qui est dit ici. Ça n'a rien à voir. Parfois, il y a ceux qui profitent de ce genre de texte pour... Voilà, je ne vais pas le dire le mot. Mais pour commencer cette méditation, j'aimerais attirer votre attention rien que sur la narration, le déroulement du texte. Voilà une veuve qui vit avec son fils unique à Sarepta, au temps du roi Akab. Elle vivait dans une époque très difficile, car il y avait la famine, c'est écrit. Il ne pleuvait pas pendant un bon bout de temps. La sécheresse menace la survie de la population, surtout les plus faibles, les plus démunis. La veuve de Sarepta, elle était en train de ramasser du bois avec un cœur serré en pensant qu'elle allait faire du feu pour leur dernier repas et attendre la mort par la suite, lorsque le peu qu'elle avait serait consommé. Alors, dans sa détresse, elle ne priait même pas. Parfois, il y a des gens qui rajoutent des choses dans le texte qui n'est pas dedans. Elle n'a pas prié. Elle était triste, elle était en train de ramasser les bois. Et voilà Élie qui vient vers elle. Cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Élie ne faisait qu'exécuter les consignes de Dieu. Et si vous lisez un peu plus à l'avance du texte, Dieu l'a envoyé vers cette femme. C'était vraiment une mission pour cette femme. Je m'arrête jusque-là pour vous demander si vous vous rappeliez quelques récits bibliques qui sont un peu pareils ou similaires à ce que nous venons d'entendre. Est-ce qu'il y a des récits bibliques qui vous viennent à l'esprit un peu similaires à ce texte? La pièce, oui. Et dans l'Ancien Testament? Abraham et? Oui, très bien. Et l'histoire de Moïse, voilà. Moïse, par exemple, et je vais revenir avec l'exemple d'Abraham, lorsqu'il s'est enfui vers le désert, il rencontra des femmes qui étaient en difficulté car il y avait des bergers qui voulaient faire passer en premier leur troupeau et se servir en premier au puits de Jacob. C'est justement à ce moment-là que Moïse entra en jeu, on va dire, pour défendre les femmes face à ces bergers. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le point commun avec notre récit. Moïse était en train de fuir le Pharaon, et lui aussi, après avoir traversé le désert, forcément, il avait faim. Élie aussi, il avait faim. Il avait soif. Mais à ce moment-là, il a encore dû se battre pour défendre d'abord ses femmes. De l'autre côté, ses femmes aussi avaient besoin d'aide. Voilà un premier récit. Deuxième récit. Un autre récit qui est similaire à notre texte, l'histoire du serviteur d'Abraham, qui fut envoyé pour trouver une femme pour son maître Isaac, dans le pays d'Abraham. Et il a rencontré Rebecca, une femme, au puits. Elle venait avec ses amis pour aller puiser de l'eau. Mais à ce moment-là, le serviteur d'Abraham s'adressa à elle, si elle pourrait donner de l'eau à tous ses chameaux, 10 chameaux. Et vous savez bien quelle est la consommation d'un chameau. Vu la consommation en eau d'un chameau, ce n'est pas une mince affaire, mais en plus c'est un inconnu. Qui parmi nous va faire cela? Donner de l'eau pour 10 chameaux pour quelqu'un que je ne connais pas. Si c'était pour la famille, parfois même on discute, oui, mais quel est le contrat? Qu'est-ce que tu vas me donner à la fin? Mais ici, c'est pour un inconnu, mais elle l'a fait. Deuxième récit. Troisième récit, je fais un saut. Jésus et la femme samaritaine. Cette femme qui venait au puits pour chercher de l'eau, à une heure vers midi, où il n'y avait pas trop de monde parce qu'il faisait trop chaud, et c'est le moment pour une femme de son genre de se faufiler pour ne pas être aperçue. Et là, Jésus se mettait aussi tout près du puits, parce qu'il est écrit, Jésus aussi avait soif. Il avait faim, comme tout le monde. Et il venait aussi pour chercher de l'eau, en attendant les disciples qui allaient chercher à manger en ville. Voilà les trois récits. Comme le serviteur d'Abraham et comme Jésus, Élie est venu vers cette pauvre femme, non pas dans la force, ni dans la gloire, puisque rappelez-vous qu'à cette période-là, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie, il y avait la famine. Et même Élie a été nourri, rappelez-vous, il a été nourri par un corbeau. On est en train d'étudier le personnage d'Élie au Jake. Ils étaient étonnés. Vous voyez, est-ce que c'est possible qu'un corbeau nourrit un monsieur? Normalement, les corbeaux, ils gardent leur nourriture pour eux. Hein, c'est des rapaces. Mais Dieu inverse le rôle. Le grand serviteur Élie, le grand prophète, est nourri par un corbeau. C'est humiliant comme image. Et ici, c'est un peu la même chose. Et cette fois-ci, l'Éternel lui a envoyé, après avoir été nourri par un corbeau, maintenant tu vas être nourri par une veuve. C'est dur comme traitement. Élie, vous imaginez ce grand Élie? Élie, il a été nourri par une veuve. On peut voir par là un Dieu qui vient dans la faiblesse pour rencontrer la femme, pour rencontrer l'homme qui lui aussi est dans sa faiblesse. Et moi, personnellement, j'aime bien cette image que les textes bibliques nous donnent. Un Dieu qui vient vers l'homme, non pas dans sa gloire, ni dans sa magnificence, il vient plutôt dans son contraire. Ce qui est bien à retenir dans cela, oui, Dieu est puissant, je l'accepte. Dieu est glorieux, Dieu est majestueux. Ça, c'est sa nature à lui, en lui. Et ça, il le garde pour lui. Mais quand il se manifeste à nous, vers l'homme, il vient dans une image d'humilité, voire même de faiblesse. Un Dieu qui se révèle dans la faiblesse. Les gens n'aiment pas entendre ce genre de message. Rappelons-nous aussi toujours avec ce même Élie, dans 1 Roi chapitre 19, l'Éternel a fait sortir Élie dans une grotte si vous avez lu ce passage, où il s'est caché pour fuir la fureur de Jézabel. Et de cette grotte, Dieu s'est manifesté en lui. Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Il dit, j'ai pris la fuite à cause de Jézabel. Alors le Seigneur sort de là. Et pour le faire sortir de là, le Seigneur passait. Et ça, c'est un peu comme le terme qui est utilisé dans Exode pour la Pâque. Dieu qui passe, ça veut tout dire. Alors le Seigneur passait, il y avait d'abord un grand vent violent qui arrachait les montagnes, qui brisait les rochers. Mais il est écrit, le Seigneur n'était pas dedans. C'est beau comme histoire. Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans la violence. Or, lui, il espérait que Dieu était dedans. Il voulait avoir un Dieu puissant, fort, pour le protéger contre Jézabel. Il voulait une assurance, mais Dieu n'était pas dans ce vent violent. Ensuite, après le vent, il fut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'y était pas non plus, dit le texte. Après cela, il y a eu le feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et à la fin, il eut un calme, une voix tenue. Alors, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, car le Seigneur était dans le calme. Vous voyez comment Dieu se révèle? Pas dans le feu, pas dans le tremblement de terre, pas dans le vent violent, dans le calme. C'est étonnant. Moi, personnellement, j'étais étonné en préparant ce texte parce que si vous vous rappelez, revenir avec, au temps de Moïse, Dieu se révélait dans le vent, dans le feu, sur la montagne d'Horeb, rappelez-vous. Dieu se révélait dans le tremblement de terre où il y avait les enfants d'Israël qui voulaient « Mais nous voulons parler à l'Éternel. Pourquoi c'est toujours toi qui dois nous parler? On veut lui parler directement, on n'a plus besoin de toi. » Et le Seigneur dit « Ok. » Dites aux enfants d'Israël de se préparer, je vais venir. Et il y avait tout cela, tout ce qui est écrit, le vent, tremblement de terre, le feu. Et ils ont eu peur. Ah non, ça vaut mieux que c'est toi qui nous parles. Ça fait trop peur. Voilà, on ne peut pas connaître Dieu dans tout cela. Et le constat avec cette histoire, c'est que personne n'avait compris ce que Dieu disait, seul Moïse. Alors ils l'ont supplié, Moïse intercédait à nouveau pour eux. Dieu veut nous rencontrer, chers frères et sœurs en Christ, au milieu et au cœur de notre pauvreté. Je parle ici de notre pauvreté spirituelle et aussi matérielle, peu importe, mais ça peut englober toute chose. Et ce qui est encore plus fort dans cette image, c'est qu'il ne vient pas dans une position de force face à notre pauvreté. Il vient aussi vers nous dans une forme de faiblesse. Et c'est ce qu'il a dit ici. Et c'est ce qu'il fait toujours. L'accomplissement de cela, c'est le jour que Dieu lui-même a décidé de venir à nous dans la chair. Nous allons tout doucement vers l'avant. On se prépare pour la venue du Messie. Ce Dieu qui s'incarne. Et l'incarnation du Christ n'est pas juste un moyen. L'incarnation n'est pas juste un outil d'accomplissement du plan de Dieu, mais l'incarnation touche au plus profond de nous-mêmes. D'abord, il se met à notre niveau. Dieu qui descend, Dieu qui se met à mon niveau. Il a eu faim comme moi, il a eu soif comme moi, il a pleuré comme moi, il est même mort comme moi. Voilà ce que Dieu a fait. C'est ça l'incarnation. Descendre à notre niveau. Mais ensuite, en faisant cela, il touche mon humanité. Il va au cœur de ma finitude, de ma faiblesse. Il partage ma faiblesse. Et enfin, à partir de cette faiblesse humaine, de notre pauvreté, il ne nous a pas promis qu'il va nous rendre tout à coup riches comme Crésus, ni glorieux plus que jamais. Non, qu'est-ce que Dieu nous promet? Il transformera notre pauvreté, il utilisera notre pauvreté pour devenir une source de bénédiction. Ta pauvreté, ta faiblesse devient une bénédiction. N'attends pas que ta faiblesse change en puissance, en gloire. Non, Dieu utilisera ta faiblesse pour bénir ce qui est autour de toi. Comme cette veuve qui n'avait qu'un pot de farine, mais c'est à partir de ce peu qu'elle avait que Dieu a utilisé pour nourrir Élie d'abord, mais pas elle, et ensuite sa petite famille. Dieu n'a pas donné des choses en abondance. Il a considéré la pauvreté de cette femme, il l'a transformée en moyen de grâce. Et cela ne nous rappelle-t-il pas aussi l'histoire du petit garçon quand Jésus a nourri les 5000 hommes dans le désert? Jésus a dit, est-ce qu'il y a à manger ici parmi vous? Et l'enfant sans gêne, il se leva. Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Regardez le réflexe entre les disciples et l'enfant. Les disciples, ils avaient imaginé une solution grandiose. Voilà, on veut toujours un miracle extraordinaire. Où trouver de l'argent qui suffirait tout ce peuple? C'est pour dire, Seigneur, allez, fais-nous un miracle, sors-nous de l'argent. C'est ça ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas osé le dire. Jésus le dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils cherchaient un grand miracle pour régler leurs problèmes. Et c'est un peu aussi notre attitude. Ouvre le ciel, Seigneur, pour que tout ce problème disparaisse. Oui, c'est légitime. Or, Jésus, lui, il a pris en considération les 5 pains, les 2 poissons qui ne suffisent pas. Mais à partir de ces choses, si peu soient-elles, qu'il a pu nourrir toute une population. Jésus avait comparé même le royaume de Dieu comme une graine de sénévé. Il se manifeste dans la petitesse. Pourtant, la force et la puissance de la vie dans cette petite graine qui jaillit et qui devient un arbre époustouflant. Comme le Christ humilié, le Christ frappé, le Christ traîné dans la boue, moqué, battu à mort. Mais de là, de cette souffrance que jaillit la vie éternelle, une vie en abondance à Golgotha. Toi aussi, peut-être qu'on t'a dit qu'à chaque fois que tu n'es rien, tu n'es personne, tu n'es rien du tout, c'est souvent ce qu'on entend, eh bien n'attends pas que tu deviennes de quelqu'un d'important. C'est à travers ta petitesse, c'est à travers ta faiblesse que la grandeur de Dieu se déploiera. Amen.